À très bientôt dans Washington Forum.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. En Guinée, les militaires au pouvoir ont présenté un avant-projet de constitution.
Un système bicaméral qui consacre donc une assemblée nationale et un sénat. L'autre innovation, c'est la possibilité qui est donnée aux candidatures indépendantes. Désormais, on peut être présenté par un parti politique pour se présenter tout simplement indépendant.
Nous entendrons l'analyste politique Kabinet Fofana en seconde partie de cette édition. Également un activiste camerounais détenu pour ses publications sur TikTok. Le Conseil de sécurité a levé l'embargo sur les armes visant la Centrafrique. Une victoire diplomatique pour Bangui. En déplacement aux Philippines, Anthony Blinken annonce une aide de 500 millions de dollars. Et puis comme chaque jour, le journal des Jeux Olympiques fera le point sur les derniers résultats sportifs de Paris 2024. Mais d'abord, le journal. En Guinée, les militaires au pouvoir ont présenté hier un avant-projet de nouvelle constitution. Le texte limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et doit être soumis à référendum avant la fin de l'année. Alexandrine Holognon.
L'avant-projet de constitution est composé de 205 articles. Il prévoit une limitation des mandats à 2, l'instauration d'un système de parrainage pour l'élection présidentielle, un âge minimum de 35 ans et de 80 ans maximum pour se présenter, la mise en place d'un nouveau parlement avec 2 chambres, une assemblée nationale et un sénat. L'élaboration de cet avant-projet obéit à une démarche participative et inclusive, selon le rapporteur de la commission des lois, Jean-Paul Kodebe Duno. La présentation du document s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique, de partis politiques, d'acteurs de la société civile, lors d'une cérémonie au siège du Conseil national de transition. Des sessions de travail thématiques devraient être organisées très prochainement pour enrichir le document avant sa remise au président de la transition, selon le président du CNT, Dansa Kourouma.
Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affirme avoir tué 50 combattants du groupe paramilitaire russe Wagner et 10 soldats maliens lors d'une embuscade dans la région de Kidal, près de la frontière avec l'Algérie, samedi. Cette embuscade a eu lieu le même jour où la coalition rebelle Touareg du CSP a déclaré avoir tué et blessé des dizaines de soldats maliens et de soldats russes au cours de plusieurs jours de combat à Tinzawaten, au nord-est de Kidal, toujours dans le nord malien. Un activiste camerounais a été arrêté à Douala et est détenu depuis mercredi pour incitation à la rébellion et propagation de fausses nouvelles. Junior Ngombe est détenu après avoir posté des vidéos sur le réseau TikTok. Les précisions de Jean-Roger Bion.
D'après Human Rights Watch, qui demande sa libération, Junior Ngombe, un coiffeur et activiste sur les réseaux sociaux âgé de 23 ans, a été arrêté devant sa boutique à Douala par 3 hommes en civil qui prétendaient travailler pour les services de renseignement. Junior Ngombe est poursuivi pour incitation à la rébellion et propagation de fausses nouvelles, indique Maître Serge-Emmanuel Tchendjou, l'un de ses avocats, dans un communiqué. Ses avocats estiment que l'arrestation est liée à plusieurs vidéos sur TikTok dans lesquelles Junior Ngombe a encouragé la population à s'inscrire sur les listes électorales pour voter à l'élection présidentielle de 2025. Il a également plaidé en faveur d'un changement de régime démocratique et a contesté l'intolérance des autorités à l'égard des critiques. Human Rights Watch a déjà alerté fin juillet sur une série de décisions gouvernementales préoccupantes et manifestement destinées à museler l'opposition à l'approche de la présidentielle. De son côté, le gouvernement camerounais a dénoncé à la mi-juillet la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent dans la perspective de l'élection.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé ce mardi l'embargo territorial sur les armes visant la Centrafrique. Une victoire diplomatique pour Bangui qui dénonçait une sanction injuste, même si les forces gouvernementales en étaient exclues depuis 1 an. Le Conseil décide toutefois dans le même temps d'interdire jusque 31 juillet 2025 les ventes d'armes à destination des groupes armés opérant dans le pays. Le site Tchadinfo.com, principale plateforme d'information en ligne du pays, est à nouveau disponible aujourd'hui. Le média avait été suspendu vendredi suite à une plainte de monsieur Abakar Manani, ancien conseiller du chef de l'État, exigeant le retrait de tous les articles concernant ce que Tchadinfo a refusé. Le ministère des Affaires étrangères soudanais, fidèle à l'armée, a annoncé mardi vouloir plus de discussions avant de répondre positivement à l'invitation de Washington à des pourparlers de cessez-le-feu prévus en août. Il y a une semaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a convié l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide à ces pourparlers censés débuter le 14 août à Genève en Suisse. Le jour même, le général Daglo avait salué l'invitation de Washington et annoncé la participation des FSR. L'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, était restée muette. Alger a annoncé mardi le retrait immédiat de son ambassadeur à Paris pour protester contre le soutien renforcé apporté par la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. En Tunisie, la course vers la présidentielle du 6 octobre a démarré hier avec le dépôt des premières candidatures, malgré des contraintes multiples destinées, selon des experts, à permettre une réélection triomphale du président Kais Saied. Rosine Mounezero.
Les conditions ont été durcies avec entre autres une procuration spéciale pour constituer le dossier, souligne Isabelle Warrenfels, experte maghreb de l'Institut allemand SWP. Un document que n'ont pas obtenu deux opposants de premier plan en prison pour complot contre la sûreté de l'État. Une vingtaine de personnalités ont été arrêtées depuis février 2023 dans le cadre d'une enquête dénoncée par Amnesty International comme une chasse aux sorcières visant à réprimer la dissidence. Élu démocratiquement en octobre 2019, Kais Saied, 66 ans, accapare tous les pouvoirs depuis un coup de force en juillet 2021. Des ONG ont dénoncé une dérive autoritaire après sa révision constitutionnelle de 2022, instaurant un régime ultra-présidentiel et le démantèlement des institutions de contre-pouvoir établies depuis la révolution de 2011.
En Libye, les autorités ont annoncé avoir rapatrié vers leurs pays respectifs 204 Nigérians et 165 Maliens en situation irrégulière, dont plus d'une centaine de femmes et enfants. Il s'agit de départs volontaires organisés en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations, a assuré un responsable libyen. Mais certains migrants ont témoigné n'avoir pas eu d'autre choix que de repartir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont fournir une aide militaire de 500 millions de dollars aux Philippines, a annoncé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite à Manille pour réaffirmer le soutien américain face à la Chine. Nathalie Barge.
Lors d'une conférence de presse, Anthony Blinken a déclaré que cette enveloppe est destinée à moderniser les forces armées et la garde côtière philippine. Elle fait partie d'une aide de 2 milliards de dollars allouée en avril au territoire de la région par la Chambre des représentants. Monsieur Blinken et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ont rencontré le président philippin, Ferdinand Marcos, qui s'est fermement opposé aux activités chinoises en mer de Chine méridionale. Ils se sont ensuite entretenus avec leurs homologues philippins, Enrique Manalo et Gilberto Teodoro, dans le cadre de discussions dites 2+2 visant à consolider les relations de défense entre les deux pays. La visite de messieurs Blinken et Austin à Manille s'inscrit dans le sillage de celle du président philippin à Washington en avril à l'occasion du sommet entre les dirigeants du Japon, des Philippines et des États-Unis. Les confrontations entre la Chine et les Philippines se sont multipliées, notamment autour de l'atoll Second Thomas où des troupes philippines sont stationnées. Washington est lié à Manille par un traité de défense depuis les années 50.
Le Sénat américain a approuvé mardi une série de mesures visant à protéger les enfants sur Internet. Le premier texte d'envergure ciblant l'industrie technologique aux États-Unis. C'est un jour exceptionnel, a applaudi le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Ce texte doit désormais être approuvé à la Chambre des représentants où son adoption est plus incertaine et où les élus sont en vacances parlementaires jusqu'en septembre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et maintenant, le journal des Jeux Olympiques avec Eric Manirakiza.
C'est un couac sérieux pour les JO 2024 de Paris. L'épreuve masculine du triathlon est reportée de mardi à mercredi pour raisons sanitaires à cause d'une eau de la Seine encore trop polluée, ont annoncé les organisateurs qui ont fait depuis le départ le pari risqué de faire nager des sportifs dans le fleuve. Le triathlon est la première discipline olympique qui doit se tenir dans le fleuve avant la natation en eau libre, la deuxième semaine des JO de Paris. Les fortes pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont dégradé la qualité de l'eau. Mais quelle discipline des JO attire particulièrement l'intérêt de la communauté africaine? Suivez Yacine Amono, un artiste parisien d'origine algérienne.
Alors pour ce qui concerne la communauté africaine, il y a effectivement tous les sports assez connus et qui sont aussi des compétitions qu'on va retrouver sur notre continent. Je pense au football par exemple, qui est énormément suivi par la communauté africaine, et puis évidemment aussi le basketball. Il y a des sports qui le sont beaucoup moins. Je pense par exemple à l'escrime, où effectivement la communauté est beaucoup moins sensible à ça, de par le fait simplement qu'elle y participe moins, en fait, hein, sur notre continent. Donc ça, là-dessus, effectivement, on est quand même sur un intérêt assez, j'allais dire, assez habituel des sports que l'on connaît et que l'on pratique chez nous, en fait. Ça, là-dessus, c'est assez bien reçu, c'est assez intéressant de découvrir des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en ce qui concerne les sports en tant que tels, on reste quand même sur les sports qu'on aime et qu'on connaît et qu'on pratique. Hein, donc les sports collectifs, notamment, donc le basket, le foot, le rugby, etc. Et puis aussi, mine de rien, les sports tels que la natation, par exemple, est quand même pas mal suivi par la communauté africaine. Et puis tous les sports athlétiques, évidemment. Hein, je pense à la course, que ce soit le 100 mètres ou le 500 mètres. Enfin voilà, tous ces sports-là d'athlétisme et également aussi donc les sports collectifs qu'on a l'habitude de voir chez nous, qui, là, pour le coup, sont plutôt bien représentés et plutôt bien suivis par la communauté.
L'artiste Yacine Amono partage également son point de vue sur ce qui rend ces JO uniques à ses yeux.
Alors déjà, il y a la diversité des épreuves, parce que en fait, on est effectivement sur une compétition multisport, en fait, qui est multidisciplinaire. Donc, il y a énormément de sports différents, que ce soit individuels ou collectifs. Donc ça, c'est vraiment la première grosse différence. La deuxième, c'est qu'elle est complètement internationale. Là, pour le coup, on a des pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en fait, directement dans des compétitions internationales. Alors, je pense par exemple au Gabon, à la Palestine, à des pays comme ça qu'on ne voit pas souvent dans les compétitions internationales. Après, il y a évidemment, là pour ce qui concerne les JO de Paris 2024, la cérémonie qui se fait directement sur la scène, qui se fait directement en extérieur, ce qui est assez rare parce que très souvent les compétitions sportives sont en intérieur, dans des gymnases, des stades. Là, on a la chance de pouvoir faire ça en extérieur aussi, et notamment pour certaines épreuves, donc ça c'est assez original. Et puis ensuite, il y a toute la ferveur, la réputation hein, des JO qui n'est plus approuvée, en fait. Hein. Effectivement, c'est qu'une compétition qui est suivie par le monde entier. Hein. C'est des milliards de personnes qui regardent ça en direct, notamment la cérémonie d'ouverture, et puis certaines épreuves aussi qui sont quand même beaucoup suivies.
En tennis, la porte-drapeau américaine Coco Gauff, numéro 2 mondiale, en pleurs lors d'une fin de match houleuse, a été éliminée ce mardi dès les huitièmes de finale du tournoi olympique de tennis par la Croate Donna Vekic. Basket, à la recherche de la médaille d'or olympique qui manque à son immense palmarès, Stephen Curry, considéré comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, voudra lancer son tournoi contre le Soudan du Sud mercredi au stade Pierre Mauroy après un premier match discret. 4 jours après l'ouverture des JO, l'Afrique du Sud a remporté 3 médailles, dont une d'or. L'Égypte et la Tunisie ont chacune obtenu une médaille. Actuellement, le Japon mène le classement avec 7 médailles d'or.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Guinée, les autorités de la transition ont présenté lundi un avant-projet de nouvelle constitution qui devrait être soumise à référendum dans les prochains mois. Composé de 205 articles, cet avant-projet prévoit notamment une limitation des mandats à deux, l'instauration d'un système de parrainage pour l'élection présidentielle, un âge minimum de 35 ans et de 80 ans maximum pour se présenter. Pour une analyse, Mohamedou Mfa a joint à Conakry l'analyste politique Cabinet Fofana.
Effectivement, l'avant-projet de constitution a été présenté hier par le CNT. En termes d'innovation, c'est d'abord l'institution d'un Sénat qui va être composé de personnalités issues de la société civile, mais aussi d'une partie qui sera nommée par le président de la République. La proposition est donc d'avoir un système bicaméral qui consacre donc une assemblée nationale et un Sénat. L'autre innovation, c'est la possibilité qui est donnée aux candidatures indépendantes aux élections nationales. Désormais, on peut être présenté par un parti politique pour se présenter tout simplement indépendant si on a notre âge qui est compris entre 35 ans et 80 ans au plus.
Justement, pour être candidat, il faudra désormais avoir 80 ans au plus, ce qui exclut l'ancien président Alpha Condé. Par contre, si cet avant-projet est adopté en l'état, le président Doumbouya et les membres du gouvernement de la transition pourront se présenter puisque la charte de la transition sera abrogée. Un commentaire?
Généralement, ces limites de l'élection présidentielle peuvent viser une personne, une autre, en fonction un peu des intérêts. C'est une proposition qui a fait justement que le président de la République n'ait pas plus de 80 ans. Alors, est-ce que ça exclut Alpha Condé si c'est maintenu comme ça? Oui. Est-ce que pour autant, ça laisse la possibilité au président Mamadi de se présenter? Je dirais non, parce que ça ne dit pas textuellement cela. Je pense qu'il faudrait plutôt voir autre disposition pour pouvoir penser que cela est érigé pour lui permettre de se présenter. Pour le moment, on ne pourrait pas partir de cette limitation d'âge-là pour dire qu'il serait possible ou pas.
Alors maintenant que nous avons cet avant-projet de constitution, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait un pas, qu'un pas est franchi vers la fin de la transition qui dure depuis près de 3 ans maintenant?
Oui, c'est un pas extrêmement important parce qu'il sanctionne donc la présentation du texte fondamental qui va permettre les élections, les scrutins qui doivent venir. Processus qui était attendu depuis très longtemps. On verra effectivement comment tout cela va aller et à quel rythme.
Est-ce qu'il y a un point particulier dans la constitution qui la rendrait meilleure?
Ce que je trouve extrêmement important, c'est justement le système de parrainage. Parce que ça permet, dès le départ, d'asseoir la légitimité de ceux qui veulent se présenter aux charges électives. Et l'autre innovation, je trouve bien, c'est le fait de permettre aux élections nationales les candidatures indépendantes, même si, moi, j'aurais préféré justement que, pour ce qui est de la présidentielle, qu'il soit laissé spécifiquement aux partis politiques de présenter des candidat, mais voilà, ça reste donc une discussion, c'est un avant-projet de constitution. Les contributions seront prises au fur et à mesure et puis le référendum permettra de valider ou pas cette proposition.
Cabinet Fofana, analyste politique. L'armée malienne a reconnu d'importantes pertes après des combats à Tinzawaten, dans le nord du pays. Les affrontements survenus jeudi ont impliqué les FAMA contre une coalition qualifiée de terroriste par Bamako. Les rebelles ont revendiqué des victoires et diffusé des vidéos indiquant des pertes significatives, incluant des membres du groupe Wagner. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris l'ancien agent du KGB, principal service de renseignement russe de l'Union soviétique, Sergueï Jirnov.
Je n'ai pas été surpris parce que, en réalité, Wagner n'ont jamais été les vrais combattants, surtout en Afrique. En Afrique, ils avaient deux emplois. Le premier emploi, ils servaient de garde du corps aux dictateurs africains. Et à ce moment-là, c'est jamais les gens qui mènent les batailles. Donc en fait, c'est les gardes du corps qui impressionnent les gens, mais en réalité, ils sont pas les combattants. Donc ça, c'est le premier emploi. Et le deuxième emploi, les instructeurs Wagner enseignaient comment mener les batailles, mais sans jamais se battre eux-mêmes. Et donc, en fait, ils étaient ce qu'on appelle les profs, les instructeurs. Et quand les Wagner commencent à se battre eux-mêmes, en réalité, assez souvent, on constate qu'ils savent pas se battre. C'est ce qui s'est passé aussi en Ukraine. Et donc, ils sont pas les grands combattants. Et une fois, lorsqu'ils ont rencontré au nord de Mali les vrais combattants, et bien évidemment, ils sont tombés dans l'embuscade et ils ont été massacrés, comme ils étaient massacrés aussi par les Américains en Syrie il y a quelques années.
Les Africains ont parfois des attentes élevées concernant la collaboration avec des forces étrangères comme Wagner pour améliorer la sécurité. En tant qu'analyste, comment percevez-vous l'impact de ces récentes pertes sur l'espoir des populations africaines dans cette coopération ?
Le problème en Afrique, c'est que la population africaine est très naïve. Ils tombent souvent en fait dans les travers de compréhension parce que vous savez, il y a des mythes qui circulent en Afrique et le mythe le plus populaire, c'est que les pays occidentaux étaient les grands pays colonialistes, ce que ces pays étaient, et que ils pillaient les pays africains et ils ne faisaient absolument rien pour le développement de ces pays, ce qui était faux parce que si vous prenez actuellement par exemple la Russie ou quelques autres pays, la Chine par exemple investit en Afrique plus de 300 milliards de dollars par an. L'Union européenne, plus de 400 milliards. La Russie, 18 milliards. Ça veut dire que la Russie investit absolument rien en Afrique. Et sur les 18 milliards de commerce extérieur avec l'Afrique, les 14 milliards sont les exportations russes en Afrique, la plupart du temps des armes, et ils n'achètent des produits africains que pour la somme très modique de 4 milliards. Ça veut dire, en gros, ils ne font absolument pas vivre l'Afrique, ils ne font aucun investissement en Afrique, ils investissent uniquement dans les dictateurs et ils fournissent les armes et donc indirectement ils favorisent en fait les batailles et les guerres locales entre les États et entre les groupes d'influence.
C'était Sergueï Zhirnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement russe de l'Union soviétique. Au Tchad, les partis politiques d'opposition et la société civile sont vent debout contre le nouveau découpage électoral. Selon eux, ce découpage envisagé va fausser la répartition des députés et sénateurs pour les élections à venir et mettre à mal le vivre ensemble au Tchad. Pour en savoir plus, Jean-Roger Bion, adjoint à N'Djamena, l'analyste Amat Mahamat Hassan.
La loi crée de nouveaux départements et la loi dit qu'il lui a attribué un siège de député, qu'il soit sous-habité ou densément habité. Ce qui fait que les zones de l'extrême nord, à la frontière avec la Libye, en territoire, c'est plus grand que la France. Et c'est la moitié du Tchad, mais sous-habité avec 2% des populations, on leur donne au total 21 députés. Et certaines régions du sud, comme le Mayo-Kébi, fait 18% de la population, on leur donne le même nombre de députés. Alors ça pose un problème de représentation nationale. Le gouvernement fait un alliage entre le territoire et la densité démographique. Même les territoires sous-habités, on leur accorde une représentation à l'Assemblée nationale. Et ceux qui sont densément habités auront par tranche de 90 000 habitants un député supplémentaire. D'où la question de l'inégalité dans la représentation nationale.
Alors, professeur Amat Hassan, vous, en tant que contestataire du projet de loi sur le découpage électoral, que proposez-vous avec les partis politiques et la société civile?
Le gouvernement de la 5e République porte le quotient électoral à 90 000 habitants. C'est traduit politiquement comme il a voulu doter excessivement le nombre de députés dans les régions septentrionales et donc voulant contrôler l'Assemblée nationale future par une majorité qualifiée de députés et de sénateurs et défavorisant la zone du Sud. C'est un problème très grave. Et donc, la société civile a réagi, les partis politiques ont réagi, des mémorandums circulent, des pétitions circulent, et le débat n'est pas terminé. Et je crois que le gouvernement sera obligé de retirer cette loi pour pouvoir chercher un consensus national avant de la réintroduire à l'organe qui fait office de représentation nationale, le CNT, Conseil national de transition, en attendant. Parce que sur cette base, si les élections se déroulent, le Tchad va entrer. Et n'oublions pas que le Tchad est réputé pour le recours à la violence pour des règlements de divergences politiques.
Au final, vous craignez que la cohésion sociale soit mise à rude épreuve et qu'il se manifeste au Tchad d'un repli identitaire?
Le Tchad est entré dans un cycle de violence et dans un repli identitaire très grave. Au-delà des deux blocs, un nord de culture arabo-musulmane et un sud de culture négro-chrétienne et africaine, il y a un problème. Cette fois-ci, c'est de par ethnie et par clan que chaque ethnie voulait s'affirmer, avoir une circonscription administrative de niveau départemental, susceptible d'avoir une représentation nationale d'un député ou d'un sénateur à l'Assemblée nationale. Et ça pose un problème très grave de déchirure non et de division où les zones du sud sont défavorisées par rapport aux zones du nord, sous-habitées, mais d'une manière représentées excessivement à l'Assemblée nationale. Et les régions du sud, densément habitées, sont sous-représentées ou en égalité. Et ça pose un problème de gouvernance et d'inégalité dans la gestion des affaires publiques.
Ahmad Mahamat Hassan, analyste politique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Le président Joe Biden s'étant retiré de la course à la réélection, le candidat républicain Donald Trump se concentre sur son adversaire probable, la vice-présidente Kamala Harris. Aline Barros, journaliste de la VOA spécialisée dans les questions d'immigration, explique que le parti républicain de Donald Trump s'en prend au travail de Kamala Harris sur les questions d'immigration, la qualifiant de « tsar de la frontière ». Le récit est de John Lyndon.
Le candidat républicain à la présidence Donald Trump porte maintenant son attention sur la vice-présidente Kamala Harris, son adversaire probable dans la course à la présidence, en critiquant son bilan en matière d'immigration.
Elle veut que tout le monde soit amnistié. Joe Biden l'a ensuite nommé tsar à la frontière. Et c'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Elle a lancé une invasion colossale d'étrangers illégaux dans notre pays. Elle a dit, entrez, vous vous souvenez?
L'immigration illégale est un sujet majeur pour les électeurs républicains et la campagne de Trump tente de lier Harris à la politique d'immigration de Biden. Teresa Cardinal Brown est conseillère principale en matière d'immigration et de politique frontalière au Bipartisan Policy Center.
Elle n'a jamais été nommée tsar de la frontière. En fait, la frontière n'était pas du tout sa priorité.
Au début du mandat de Joe Biden, Kamala Harris a été chargée de réduire l'immigration à la frontière sud des États-Unis en collaboration avec trois des pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Écoutons à nouveau Teresa Brown.
Elle était chargée d'élaborer une stratégie et d'obtenir des engagements en matière d'aide au développement et d'investissement dans ces trois pays du Triangle du Nord afin de contribuer à réduire les facteurs dits d'incitation à la migration.
Après que Joe Biden a demandé à Kamala Harris de mener une stratégie visant à améliorer les conditions de vie et à décourager les migrants de quitter leur pays, le message de Mme Harris en matière d'immigration est devenu plus strict.
Je veux être clair pour les personnes de cette région qui envisagent de faire ce dangereux voyage à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ne venez pas, ne venez pas.
Selon Donald Trump, le bilan de Kamala Harris montre qu'elle est ultra-libérale en matière d'immigration.
Kamala a voté en faveur des villes sanctuaires meurtrières. Elle soutient la décriminalisation des passages illégaux à la frontière et elle soutient l'amnistie de masse pour tous les illégaux. Pensez-y.
La semaine dernière, les républicains de la Chambre des représentants ont adopté une résolution condamnant l'administration Biden et sa, je cite, « tsar de la frontière Kamala Harris » pour ne pas avoir réussi à sécuriser la frontière. Hector Quiroga, avocat spécialisé dans les questions d'immigration, affirme qu'une réforme de l'immigration est nécessaire, quel que soit le président élu.
Nous avons plus de 3 millions de cas bloqués dans les tribunaux. Il n'y a pas assez de juges d'immigration. C'est ce que nous disons depuis longtemps.
L'administration Biden affirme que des progrès ont été réalisés à la frontière en signalant que le nombre d'arrestations en juin pour entrée illégale depuis le Mexique était le plus bas de tous les mois depuis sa présidence.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal.
Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée.